La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour, c'est donc le premier numéro de l'émission La Semaine de l'Art, de la Tribune de l'Art, que vous écoutez, alors non pas en direct, pour ceux qui ont déjà écouté cette émission en direct, vous allez peut-être être surpris, car vous ne retrouverez peut-être pas tout à fait les mêmes phrases, vous retrouverez les mêmes rubriques et les mêmes sujets, car nous avons eu un petit souci à l'enregistrement lors de l'émission, et nous avons tenu à réenregistrer cette émission, parce qu'il est essentiel qu'elle puisse être réécoutée, nous parlons de certains sujets dont nous, auxquels nous tenons. Donc l'émission La Semaine de l'Art sera donc diffusée de manière hebdomadaire, on essaiera de tenir cette régularité, même si en principe elle sera le jeudi à 18h, sauf exception, il pourrait arriver que nous ne puissions pas l'enregistrer à ce moment-là, mais elle sera en principe hebdomadaire. Les conditions d'écoute, c'est très simple. Si vous écoutez actuellement, c'est que vous pouvez l'écouter de votre ordinateur, à partir de la page de la Tribune de l'Art que nous signalerons régulièrement en accueil et dans la lettre hebdomadaire. Vous pouvez également l'écouter en direct. Vous pouvez l'écouter à partir d'un smartphone. Vous pouvez l'écouter en podcast. Pour les abonnés seulement, je rappelle que l'abonnement à la Tribune de l'Art vaut seulement 40 euros. La périodicité, donc, je vous l'ai dit. Et on reçoit beaucoup de signalements. En fait, pourquoi faire cette émission ? Nous recevons beaucoup de signalements de problèmes patrimoniaux, de musées, etc. Et on ne peut pas parler de tout. Nous aimerions bien écrire beaucoup plus d'articles, mais c'est assez difficile, nous ne sommes pas très nombreux. Donc la Semaine de l'Art parlera bien sûr des problèmes que vous connaissez déjà. Nous essaierons de suivre l'actualité, de signaler des avancées ou des reculs, de signaler des nouveautés. Ce sera également l'occasion de parler de scandales que nous n'avons pas pu dénoncer dans des articles. On commentera également certaines expositions que nous venons de voir et pour lesquelles nous n'avons pas encore écrit d'articles. Nous parlerons des ouvrages reçus, on signalera des articles parus dans la presse. Nous souhaiterions dans les prochaines semaines faire une revue de presse. Voilà, donc un programme assez chargé, qui ne vient pas se substituer d'ailleurs aux émissions enregistrées, aux émissions vidéo, Patrimoine en question et l'art sur un plateau, que nous avons interrompu provisoirement, car cela coûte assez cher à enregistrer, et nous cherchons actuellement un sponsor qui permettra un financement qui nous permettra d'enregistrer régulièrement ces émissions. Si l'un d'entre eux écoute d'ailleurs cette émission, qu'il n'hésite pas à se manifester. Dans chaque émission La Semaine de l'Art, nous accueillerons un invité. Et le premier invité est donc Guillaume Peigné, docteur en histoire de l'art, conférencier indépendant et auteur d'une thèse sur la sculpture néo-baroque. Alors je l'ai invité parce que cette thèse a donné lieu à un livre, le Dictionnaire des sculpteurs néo-baroques français, 1870-1914, un livre tout à fait passionnant, sur lequel je n'ai pas écrit d'article alors que j'aurais souhaité le faire, mais c'est donc l'occasion d'en parler. Alors Guillaume Peigné, pouvez-vous vous présenter en deux mots et nous dire d'abord qu'est-ce que sont ces sculpteurs néo-baroques ? C'est un vocabulaire qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre.
Bonjour Didier Rittner, merci de m'inviter à la première de la Semaine de l'Art, j'en suis ravi et flatté. Un petit mot pour me présenter, donc j'ai en effet fait ma thèse sur la sculpture néo-baroque il y a maintenant quelques années, elle avait été rendue en 2005, et j'ai enseigné d'abord à Paris 4, à l'école du Louvre, puis aussi à Drouot Formation. Maintenant je suis plutôt conférencier indépendant, j'organise des visites avec des mots et des arts, et je vais lancer sur SOSMAP un ensemble de conférences en ligne à partir du 15 janvier, enfin sans doute plutôt à partir de la fin janvier, un ensemble de conférences en ligne pour essayer d'offrir peut-être une approche un peu nouvelle de l'art. Le livre en lui-même a mis longtemps à naître, pour être honnête, puisque c'est pas facile de publier de la sculpture. Il y a eu des sortes de longues négociations. Je dois rendre hommage à Jean-René Gabory, qui est à l'origine, au final, de cet ouvrage, puisque c'est lui qui, après avoir lu ma thèse, avait soumis l'idée de faire une publication urgente, c'est-à-dire un dictionnaire. On est allé sur ce qui était le plus utile, notamment pour, pourquoi pas, les gens qui sont dans le marché de l'art, parce qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui sont présents dans le livre, qui sont régulièrement présents par le biais des statuettes qu'ils ont éditées autour de 1900, donc des artistes qui sont présents sur le marché de l'art. Mais le fond de ma thèse était de défendre une idée stylistique, c'est-à-dire ce terme de néo-baroque, qui en effet peut un peu surprendre, qui est utilisé plus souvent en Allemagne que chez nous, par exemple, et sans doute que les théoriciens d'un baroque qui reviendrait régulièrement dans l'histoire de l'art ont d'abord été allemands, voire espagnols, mais rarement français. Donc l'idée était, après avoir travaillé sur la vie d'un sculpteur qui s'appelle Félix Charpentier, grâce à les descendants de l'artiste, qui s'appelle la famille Baki, qui m'avait aidé dans mes recherches, eh bien, j'avais essayé de creuser un peu cette famille de sculpteurs qu'on dit parfois fin de siècle, qui ont travaillé sur le pont Alexandre III, notamment, ou à la gare de Lyon, néo-baroque ou... vous me l'aviez dit en aparté, pourquoi pas parfois aussi néo-rococo.
Oui, parce qu'on est un peu,
on est un peu dans les deux. Alors c'était difficile de choisir un titre. Alors déjà, si on met dictionnaire des sculpteurs néo-baroques, ça peut paraître un peu lourd. Alors si j'avais mis néo-baroque et néo-rococo, on aurait fait fuir tout le monde. L'idée, c'est dans une introduction de défendre une sorte d'approche stylistique de la fin du 19e siècle, pour dire qu'il y a eu une cure de mouvement, notamment dans la sculpture française, et c'est ce point de vue néo-baroque, il est surtout défendu dans la traduction. Le reste de l'ouvrage, c'est donc un dictionnaire sur des 60 sculpteurs qui ont travaillé partout en France aussi, hein. On peut citer le monument des Girondins à Bordeaux, je crois que vous avez parlé de Bordeaux un petit peu plus loin.
Tout à fait, oui.
Qui avait été un peu... presque massacré il y a quelque temps et qui a été enfin réhabilité.
Vous ne parlez pas de Rodin en revanche, c'est un choix.
Oui, alors c'est un choix, Rodin.
La porte de l'enfer, c'est néo-baroque.
Tout à fait. Alors dans ma thèse, il y avait une part considérable accordée à Rodin. Il était dans le nombre de sculptures intégrées dans l'ouvrage en illustration. Il était le troisième, je crois, après Ajalbert et Falguière, qui sont eux tous les deux dans le dictionnaire. Pourquoi pas mettre Rodin? Parce que une notice sur Rodin, ça c'était une de plus. Et j'ai préféré en fait sacrifier cette notice. Rodin, j'en parle dans l'introduction, pour laisser la place à un sculpteur moins connu qui n'a pas été l'objet de biographie depuis assez longtemps.
C'est certainement un choix judicieux, parce qu'effectivement, on ne va pas regarder votre dictionnaire pour savoir qui est Rodin. En revanche, on le regardera peut-être pour voir qui est Alfred Lanson. Ou par exemple Maurice Ferrari.
Oui, Maurice Désiré Ferrari, oui, par exemple.
Ouvert au hasard.
Oui, qui a une jolie sculpture de bourreau dans la cour de l'hôtel de ville de Neuilly, dont il manque d'ailleurs pas mal d'attributs, je crois qu'il a plus son épée. Ferrari, dont on a retrouvé récemment une phobée, je crois, à la drague de Besançon, quelque chose du genre, je ne sais même plus exactement où on l'a été retrouvée. Elle a été retrouvée après ma thèse, donc j'ai pu corriger la localisation dans le dictionnaire. Oui, il y a des noms un peu inconnus. Il y a Gustave Lanson, par exemple, un sculpteur d'Orléans, qui est l'auteur des chevaux ailés qui sont dans le parc de Vaux-le-Vicomte, tout au bout de l'allée de Vaux-le-Vicomte, quand on va vers la cascade d'eau qui avait été un des chefs-d'œuvre du premier parc de Le Nôtre, eh bien, on a deux quadriges de jeunes enfants avec des chevaux ailés qui sont dus à Gustave Lanson. C'est vrai qu'il est complètement oublié aujourd'hui. Et je dirais que sur les 60 sculpteurs qui sont encore représentés dans l'ouvrage, il y a quelques noms qui sont restés. Falguière, par exemple, parce qu'il a un métro et une place. Peut-être que certains connaissent Jules Desbois parce qu'il est élève de Rodin et qu'il a réalisé beaucoup de bibelots, d'objets d'art. Et puis peut-être Récipon.
Ernest Barrias, par exemple.
Alors Barrias, oui, qui est peut-être un peu plus connu quand même, qui a réalisé l'horloge qui est au dos de la bibliothèque, de l'ancienne bibliothèque nationale, bibliothèque Richelieu. Quand on fait le tour, on a une figure qui est une allégorie de l'étude, c'est dû à Barrias. Et peut-être l'œuvre la plus connue ou méconnue, c'est cet ensemble de deux groupes de quadriges qui sont au sommet du Grand Palais.
De Récipon, donc.
Voilà, de Récipon. Artiste sur lequel je signale il y a eu une maîtrise de Stéphanie Bernardin que je crois souvent parce qu'elle fait des visites d'exposition aussi comme moi. Malheureusement, son mémoire de maîtrise et de DEA, je crois, n'a pas été publié. Donc l'idée de l'ouvrage aussi, c'est de s'être servi des travaux universitaires qui ne sont pas forcément le mien et qui, malheureusement, n'ont pas fait l'objet de publication. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu au moins un article sur Récipon parce que c'est je dirais que ces deux quadriges sont parmi les œuvres les plus importantes de la belle époque.
Très bien, nous allons passer maintenant aux expositions, sachant que nous reviendrons sur votre livre, Guillaume Peigné, sur les sculpteurs néo-baroques. Exposition, donc, malheureusement, nous voyons beaucoup d'expositions et parfois nous sommes en retard pour parler de celle-ci. Alors, je voulais simplement citer deux expositions, même trois expositions au 19e. La première est celle de Bordeaux, hein, nous parlions tout à l'heure de Bordeaux. Bordeaux qui, dans la Galerie des Beaux-Arts, présente la maison Goupil et l'Italie jusqu'au dimanche 2 février. Une exposition sur un sujet très pointu, très, très, très petit finalement, puisque la maison Goupil, dont on sait que Goupil était un marchand et un éditeur d'estampes, a publié des œuvres de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Il achetait des œuvres, il les revendait, par exemple Jérôme de la Roche, etc. Et là, c'est focalisé sur les peintres italiens. Donc c'est un sujet peu connu qui permet, ce n'est pas une exposition uniquement dédiée à la gravure, mais qui permet de présenter beaucoup d'œuvres de peintres italiens du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, qui n'ont pas été beaucoup vus en France. Donc c'est une exposition que je recommande. À Nantes, également, une très très belle exposition dans la chapelle. On sait que le musée de Nantes est pour le moment fermé pour travaux, mais ils font des expositions. Et là, c'est une exposition sur les néo-grecs, notamment Picou, dont le musée a acheté le Styx. J'ai écrit un article à ce sujet il y a quelques semaines. Mais également Jérôme, le méconnu Léopold Burth, voilà un peintre très très peu connu, mais un des meilleurs à mon sens dans ce style, qui est en fait, c'est pas vraiment un style, c'est pas vraiment un mouvement, c'est un courant de la peinture qui s'est déroulée au milieu du 19e siècle, de 1846 à 1860, 70, enfin, les dates peuvent varier un petit peu, et qui prennent leur source peut-être dans un tableau d'Ingres qui est Antiochus et Stratonis. Donc cette exposition se termine le 26 janvier 2013, je vous encourage à la voir, elle ira ensuite à Montauban, donc vous pourrez également la voir à Montauban. Vous-même, quelles sont les je crois que vous m'aviez dit que vous n'avez pas vu ces deux expositions, mais vous, quelles sont les expositions qui vous ont marqué actuellement? Alors nous avions, je signale quand même, parce qu'on peut le trouver sur internet, sur le site de Sounds Map, Guillaume Peigné anime régulièrement une émission radio consacrée aux expositions qu'il appelle la Contre-Expo, et il avait eu la gentillesse de m'inviter pour parler d'exposition masculin-masculin. Donc on ne reparlera pas ici de masculin-masculin, une exposition que nous n'avons pas aimée ni l'un ni l'autre, mais il y a peut-être des expositions au contraire dont vous pourriez dire un mot et que vous avez aimé.
Oui, alors juste un mot sur les néo-grecs. En tant que défenseur du néo-baroque, le néo-grec est un concept qui me convient bien. Je crois que c'est Baudelaire qui avait appelé Jérôme et ses compagnons l'école des pointus, un petit peu méchamment. Mais le 19e siècle ayant été le siècle des néo, peut-être que le néo-grec légitimement se place un peu avant le néo-baroque, et je dirais que ça renforce peut-être un petit peu le point de vue que j'essaie de défendre. Malheureusement, j'ai pas pu aller voir l'expo de Nantes. En revanche, je voudrais signaler l'expo sur Vincent, dont vous aviez parlé.
Oui, François-André Vincent à Tours, et qui va ensuite à Montpellier.
Voilà, qui va à Montpellier, parce que j'ai vu l'exposition à Tours, et je trouve que c'est typiquement le genre d'artiste qui mérite absolument une exposition. C'est Jean-Pierre Cuisin qui a travaillé sur l'artiste, qui était anciennement au Louvre. Cette exposition, légitimement, elle pourrait être au Louvre, elle ne l'est pas, donc il n'y a pas que des choses qui se passent à Paris. Et je crois que ce qui se passe notamment dans les préfectures, les sous-préfectures de France, et vous avez signalé aussi l'exposition Roche-Grosse à Moulins, je
sais pas, oui, l'occasion Roche-Grosse, de voir. Alors malheureusement, elle se termine je crois à la fin du mois, voilà, donc elle est encore, je crois, jusqu'au 31 janvier, également une très bonne exposition, donc pour laquelle j'avais écrit un article, effectivement, oui, très élogieux. Je pense qu'elle méritait ses éloges.
S'il y a des gens en vacances en janvier, ils peuvent aller là-bas. Et puis peut-être Valoton.
Valoton, oui, je sais que nous ne sommes pas d'accord sur Valoton.
On n'est pas d'accord sur Valoton, mais ça se termine dans les jours qui viennent. Personnellement, j'ai trouvé la présentation un petit peu particulière. J'adhère à l'idée de faire une présentation thématique et de ne pas suivre la chronologie comme on le fait si souvent au Grand Palais, ce qui peut très bien convenir. Braque, en cela d'ailleurs, est une exposition très cohérente et réussie. Autant j'adhère à cela, autant la mise en espace me paraît un petit peu ambiguë. Il y a des angles. C'est difficile de parcourir l'exposition. Le choix d'œuvre est particulier. Personnellement, j'y adhère. Enfin, disons qu'il n'y a pas les œuvres les plus connues de Valoton. Ça permet d'avoir un point de vue de l'artiste, mais je sais que un point de vue un peu original sur sa production. Pour ceux qui aiment Valoton, on voit pas forcément tout ce qu'on voit d'habitude. Après, je sais pas si c'est la meilleure façon de le défendre. Je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus.
Non, nous n'avons pas publié d'article sur Valoton. Encore une fois, il y a tellement d'expositions dont nous n'avons pas pu parler. On a finalement laissé tomber sur cette exposition que personnellement, je n'ai pas du tout aimé pour plusieurs raisons. La chronologie n'est pas l'alpha et l'oméga d'une présentation, mais lorsqu'on fait une rétrospective, il semble nécessaire tout de même que l'on puisse comprendre comment évolue le peintre, il part de quoi, il va où, ce qui n'est absolument pas le cas dans cette exposition, qui est, à mon avis, un peu bêtement thématique. D'ailleurs, une thématique pas forcément suivie, parce qu'il y a des paysages au début et des paysages à la fin.
Oui, ça, c'est vrai que
c'est pas forcément chronologique.
C'est
une chronologie qui tourne en boucle, on ne comprend pas du tout. Il y a un choix d'œuvre qui est, à mon avis, un petit peu dommage, parce que Valoton est quand même un des peintres à mon avis, c'est un des meilleurs nabis. C'est un peintre vraiment sublime, qui peut atteindre vraiment au sublime, qui a fait aussi de très mauvais tableaux. Alors, présenter quelques mauvais tableaux peut-être, mais dans ce cas-là, on les présente dans un contexte, on explique pourquoi tout d'un coup il a présenté des choses quand même assez affreuses. Enfin, moi je trouve affreuses et je ne suis pas le seul, je pense, parce que ça tue un peu le peintre de. Il y a un choix à faire, je pense que le choix n'est pas bon, et puis je suis vraiment catastrophé une fois de plus par le catalogue qui, comme le catalogue masculin-masculin, n'apporte rien. Enfin, vraiment, il y a quelques essais pas très très bons. C'est assez médiocre tout cela, je trouve.
Oui, puis même, enfin, c'est vrai que pour le catalogue, là, je vous suis, notamment aux interventions de Claude Arnaud, qui est un écrivain assez à la mode en ce moment, il revendique le fait de ne pas faire de notices d'histoire de l'art. Donc il fait des petits commentaires sur des tableaux, mais on est quand même assez loin.
Ne pas faire de notices d'histoire de l'art, c'est un problème. Ne pas faire d'histoire de l'art tout court, c'est un peu plus ennuyeux.
C'est beaucoup plus.
Voilà, bah, écoutez, est-ce que d'autres expositions ou.
Non, enfin, dans celle qui se termine, je verrai que ça. Si, celle de Jacques Marandré, parce que je crois qu'il reste encore une ou deux semaines, c'est une belle petite exposition. Dans les salles modestes de Jacques Marandré, mais on y voit la collection Pérez-Simon dans une de ses sous-parties, puisque c'est, je crois, la plus grande collection de peinture privée au monde. Ce sont des artistes qu'on ne voit jamais chez nous, alors qu'ils sont très présents dans les musées américains, par exemple. Je pense à Alma Tadema, toute cette école de. D'ailleurs, c'est peut-être une exposition qui fait écho un peu aux néo-grecs, ce sont des néo-grecs ou néo-antiquisants anglais. Et moi, j'étais très convaincu, le catalogue est bien fait, parce que pour une fois, il y a des notices d'œuvres.
Je n'ai pas vu l'exposition, je n'ai pas lu le catalogue, donc je ne peux pas en parler. En revanche, je voudrais aussi citer une exposition que j'oubliais, qui est celle du musée Marmottan, qui la retrouve comme sa vocation, qui est aussi de présenter l'art de l'Empire, et qui présente une exposition sur les sœurs de Napoléon, avec une présentation plutôt bien faite, avec des œuvres intéressantes, un bon catalogue. Donc c'est aussi une exposition à voir qui va bientôt se terminer. Donc j'encourage les lecteurs ou les auditeurs maintenant d'Attribut de l'art à aller voir.
Il y a encore aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui vient d'être prolongé. Et je l'ai découverte avec beaucoup d'intérêt parce que, comme je sais qu'il y a beaucoup de 19e-istes qui vous écoutent, si on s'intéresse au 19e siècle, il faut aller voir l'exposition du musée Guimet parce qu'elle n'est pas forcément sur encore sur le site en lui-même, elle est sur la découverte d'encore par un militaire français du 19e siècle. Et c'est assez fascinant que si on s'intéresse à l'histoire et pas forcément à l'Orient en tant qu'art, mais à l'histoire des rapports France-Orient au 19e.
Eh bien, maintenant, nous allons passer après les expositions. Bien sûr, je vous encourage à aller lire la Tribune de l'Art. Nous publions régulièrement des revues d'expositions. Nous allons parler d'un petit intermède patrimoine avec un sujet qui nous tient à cœur. C'est l'escalier de la Bibliothèque nationale de France. Alors, certains nous ont fait remarquer qu'il y a des sujets plus importants au point de vue patrimoine, que l'escalier de la BNF n'est pas forcément le plus bel exemple d'architecture qu'on puisse voir à Paris ou en France. C'est exact, l'escalier de la BNF, qui date du début du XXe siècle, n'est pas le plus beau. N'empêche qu'il a été jugé suffisamment important pour être inscrit monument historique, et il mérite à mon avis cette inscription. Il est l'œuvre d'un architecte qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé avec Labrouste, qui est Pascal, son prénom m'échappe à l'instant. Et en tout cas, il a été protégé, c'est-à-dire qu'on a décidé de le protéger. Il est donc assez choquant que ce soit, et même très emblématique, que ce soit le ministère de la Culture qui décide, via son établissement public, la Bibliothèque nationale, de détruire sans autre forme de procès un escalier qui a été protégé. Les justifications qu'on donne sont totalement ridicules. Une de celles qu'on a pu lire, je ne l'ai pas interviewé moi-même, d'ailleurs je souhaiterais le rencontrer pour un article que je prépare pour la Bibliothèque nationale, mais cette rencontre a été différée, je ne sais pas jusqu'à quand, mais Bruno Racine a dit que l'escalier était dangereux. Alors nous, à la Tribune de l'Art, nous payons notre personne, nous sommes très audacieux et nous sommes allés voir sur place est-ce que cet escalier est dangereux, et nous avons voulu interroger certains lecteurs de la Bibliothèque nationale qui empruntent cet escalier. Donc nous sommes rendus en fin de journée avec notre micro pour ce petit reportage que je vous laisse écouter.
Je suis donc en train de monter l'escalier de la Bibliothèque nationale, particulièrement dangereux, selon Bruno Racine, raison pour laquelle on veut le détruire. Je suis d'une audace extraordinaire. Je monte et je ne suis pas tombé encore. Je vois encore quelques marches, peut-être vais-je arriver au bout. Prévenez ma famille si je n'y arrive pas. Si, peut-être, si, oui. Oui, je suis au bout et en haut de l'escalier, et c'est formidable. Je ne suis pas tombé et je n'ai même pas tenu la rampe.
Bonjour, je m'appelle Shahrazad Gorachian.
Et donc, vous venez travailler à la Bibliothèque nationale régulièrement ?
Je suis en train d'écrire mon deuxième livre sur l'histoire de cuisine persane.
Et est-ce que vous êtes au courant qu'on veut détruire cet escalier? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ça va être tragique. C'est une belle construction et ça ne va pas.
Et vous n'avez pas peur quand vous le descendez?
Maintenant, non.
Oui.
Non,
pas vous êtes très courageuse, donc.
Maintenant?
Oui. C'est très dangereux, il paraît.
Ah, non, non, non. Non, 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 pas de bon. Tout.
En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous trouvez que cet escalier est dangereux?
Non. Non, du tout.
Est-ce que vous n'avez pas peur de monter cet escalier?
Non.
D'accord. Et vous savez qu'il va être détruit, ces escaliers. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve ça dommage, surtout qu'à mon avis, c'est un escalier qui est historique.
Oui.
Et donc après, peut-être pour les personnes handicapées, mais il devrait y avoir un ascenseur à côté.
Il y a un ascenseur, je vous le confirme.
Ah bon, voilà, donc c'est vraiment dommage.
Vous êtes historienne de l'art?
Historienne.
Historienne.
En master.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, monsieur, vous montez d'abord à vos risques et périls, parce que Bruno Racine a dit que l'escalier était dangereux. Je vous vois, vous allez comme ça, vous n'avez pas conscience des risques que vous prenez?
Pas du tout, non, non. Moi, je trouve cet escalier parfait. Je vois pas en quoi il est dangereux.
Et vous venez depuis longtemps à la Bibliothèque Nationale?
Oui, je viens depuis une trentaine d'années.
Vous êtes chercheur?
Oui.
En histoire?
En histoire, oui.
D'accord.
Oui.
Et donc, vous ne le trouvez pas dangereux?
Pas du tout.
Est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité?
Si, moi je me sens en sécurité, mais je dois dire que je suis d'un courage extrême, et je vois que vous également, puisque c'est une des raisons pour lesquelles est-ce qu'il ne trouverait pas qu'il prend beaucoup de place et qu'il n'y aurait pas mieux à faire, par exemple en mettant ce qu'il veut faire un salon d'accueil où on pourrait papoter, discuter, etc.
Si, enfin on peut aménager ce bâtiment comme on le souhaite, mais enfin cet escalier me semble être classé.
Il est inscrit, effectivement, je vous le confirme.
Voilà, il est inscrit, il me semble parfait pour monter dans les salles, il est agréable, il est bien entretenu, je vois pas, je supprimerai.
Eh bien, troisième personne que nous interrogeons, nous ne trouvons encore personne qui le trouve dangereux ou superfétatoire, donc peut-être qu'on va en trouver d'autres, mais en tout cas, merci monsieur.
Mais de rien, je vous en prie.
Au revoir monsieur.
Au revoir.
Nous en sommes donc à la troisième personne qui emprunte cet escalier, troisième personne qui ne travaille pas ici, parce que bien sûr, nous ne voulons pas mettre en péril les personnes qui s'exprimeraient librement et qui travaillent à la Bibliothèque Nationale et qui sont assujetties à un devoir de réserve. Eh bien, nous avons trois personnes qui ne pensent pas que cet escalier est dangereux. Alors, sont-ils téméraires? Sont-ils courageux? Sont-ils complètement inconscients? Je le laisse à votre sagacité. En tout cas, je vais attendre encore un petit peu, parce que lorsqu'il y a des foules de 50 ou 100 personnes qui descendent en même temps l'escalier devient peut-être dangereux. Nous le verrons bien, nous allons attendre encore un peu. Bonjour monsieur, donc vous sortez du cabinet des médailles, donc vous empruntez ici un escalier et vous n'avez pas conscience que cet escalier est très dangereux?
Non, pas du tout.
Donc et vous savez que cet escalier va être démoli?
Non, pas plus.
Et qu'en pensez-vous du fait qu'on va démolir cet escalier pour le remplacer par un escalier hélicoïdal qui prendra un peu moins de place et qui sera un escalier en verre et en métal?
C'est regrettable par rapport à l'architecture du lieu, on va dire ça comme ça.
Est-ce que vous savez qu'il était inscrit cet escalier? Il est inscrit monument historique en plus.
S'il est inscrit, ça me surprend qu'il puisse se démolir.
Le ministre de la Culture a donné son autorisation.
Ah bon, mais pourquoi? Pour des raisons de sécurité?
Alors, parce que Bruno Racine dit que cet escalier est dangereux et aussi parce qu'il veut faire plus d'espace pour que le grand public puisse venir.
De toute façon, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse venir le grand public, mais je ne pense pas que ce soit la place d'un escalier qui va les faire venir ou pas venir. Quant à la sécurité, je ne vois pas pourquoi il est dangereux. Enfin, j'imagine qu'il n'est pas aux normes, mais qu'est-ce qui est aux normes dans un bâtiment de cette époque-là?
Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.
Et donc, Guillaume Peignet, qu'est-ce que ce petit reportage vous inspire?
Alors, j'avoue que comme vous, je n'ai pas, même plus que vous d'ailleurs, je n'ai pas forcément une grande admiration esthétique pour l'escalier de Pascal. Même si j'aime bien ce qu'il a fait à l'extérieur, je trouve que le raccord entre le bâtiment d'époque Mazarin et puis sa façade 19e, au final, passe assez bien. Pour l'escalier en lui-même, je pense pas que ce soit forcément un chef-d'œuvre du 19e siècle, mais bon, on a sacrifié déjà beaucoup d'escaliers, et au final, c'est d'abord la question, c'est de savoir ce qu'on va faire après, puis ce qui...
Est-ce que vous avez vu le dessin de l'escalier qui va le remplacer?
Oui, c'est une sorte de spirale,
c'est ça, on se croirait dans un... centre commercial.
Oui, oui, c'est assez tendance. Alors, c'est justement, en fait, c'est ça qui me pose plus problème. C'est qu'en soi, si vraiment, bon, il y avait des questions importantes pour détruire l'escalier, ça pourrait passer. Mais c'est d'une part ce qu'on va faire. Et puis, c'est surtout toutes les internations qu'il y a eu entre on le détruit pas. Et là, justement, j'ai lu avec attention, avant de venir à l'émission, ce que vous, toute cette affaire que vous avez suivie régulièrement. Et c'est, au final, c'est beaucoup de réunions. C'est déjà, je pense, beaucoup d'argent perdu pour prendre une décision, ne pas la prendre, alors qu'au final, on s'aperçoit que bon, il y avait, on pourrait très bien garder l'escalier et peut-être réorganiser les passages dans la bibliothèque Richelieu. Et là, je pense qu'on pourrait mettre en valeur cet escalier plutôt que le sacrifice.
Ce qui est scandaleux aussi, c'est les arguments utilisés. Le Canard Enchaîné a fait un très bon article pour expliquer que du côté de la Bibliothèque nationale, on dit que l'escalier, le détruire, ce sera moins cher qu'en reconstruire un autre. Évidemment, le journaliste du Canard ne se laisse pas prendre, et j'ai démontré très facilement dans un article que c'est absolument faux. Évidemment, c'est se moquer du monde de dire cela, et je trouve quand même qu'il y a, de la part des gens qui sont censés conserver le patrimoine, un certain mépris, non seulement de ce patrimoine, mais également des gens qui le protègent. Ils nous prennent vraiment pour les imbéciles. Enfin bon, c'est en tout cas mon opinion. Parlons maintenant de musées, puisqu'il y a beaucoup de musées qui ouvrent, qui rouvrent, malgré une époque qui n'est pas forcément toujours favorable aux musées. Il y a eu un certain nombre de chantiers en France et à l'étranger. Alors, là aussi, l'occasion de cette émission, c'est de pouvoir parler de choses dont je n'ai pas encore, pour lesquelles je n'ai pas encore écrit. À Langres, par exemple, a été créée la Maison des Lumières. J'aime pas beaucoup cette mode qui veut qu'on crée des maisons ou des cités à la place de musées. En fait, c'est un musée qui est dans une maison du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs n'est pas la Maison de Diderot, mais ça s'appelle la Maison des Lumières ou la Maison de Diderot à Langres, et qui présente des collections intéressantes autour des philosophes et de l'encyclopédie. À Valence également, où nous allons aller lundi prochain, qui a rouvert un musée, et à Valence, le musée vient de rouvrir après de longs travaux, et nous en parlerons dans un prochain article. Signalons aussi le musée de Bordeaux. L'article a été mis en ligne aujourd'hui, jeudi, le jour où nous avons enregistré cette émission, le jeudi donc 9 janvier. Le musée de Bordeaux, avec un musée qui rouvre, j'allais dire à minima, mais quand même. C'est-à-dire que ça fait très longtemps, plusieurs années, que les deux ailes construites à la fin du XIXe siècle pour abriter le musée n'avaient pas été entièrement ou presque dédiées au musée. Ça, c'est déjà très bien. Un accrochage assez beau. Ça montre à quel point ce musée pourrait être bien plus important. Si on va sur le site du musée de Bordeaux, on verra que les collections sont toutes en ligne. Il y a énormément d'œuvres qui sont en réserve encore, dans des conditions d'ailleurs pas toujours très bonnes. Et ce qu'il faut espérer, c'est que le musée de Bordeaux finisse par trouver un écrin digne de lui. Je parle de Bordeaux également parce que dans les jardins de Bordeaux, il y a une œuvre de Raoul Larche qui fait partie des sculpteurs néo-baroques, une œuvre qui est en mauvais état, qui mériterait vraiment d'être restaurée, en tout cas qui devrait être sauvée parce qu'elle est vraiment laissée à l'abandon. C'est d'ailleurs incroyable que dans le jardin de la mairie, parce que c'est également le jardin du musée, mais c'est également le jardin de la mairie de Bordeaux, le maire puisse tolérer des œuvres dans un état pareil. En tout cas, cette œuvre du Raoul Larche, l'apôtre. Oui. Donc, dites-nous un mot de Raoul Larche, peut-être.
Oui, Larche, il est, je crois qu'il n'est pas né à Bordeaux, mais il est originaire de la région. Il y a d'ailleurs eu...
Je vais vous dire ça, parce que j'ai un très bon dictionnaire néo-baroque.
Voir où il est né. Mais,
il est né à Saint-André de Cubzac, voilà, donc tout à côté.
Juste à côté. Et Larche, en effet, est un sculpteur qui parfois est rattaché à l'art nouveau, ce qui n'est pas illégitime pour certaines statuettes décoratives qui représentent, entre autres, la danseuse Loïc Fuller. Mais je considère plutôt comme un néo-baroque, justement pour cette figure de l'apôtre, qui est une image à peine voilée du Christ, mais un Christ un peu déchristianisé, avec une sorte d'allant, un jeu de draperie très très baroque d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une sculpture qui est assez à l'abandon. Larche, tout le monde connaît une œuvre de lui si vous fréquentez les expositions du Grand Palais, puisque il est l'auteur de la grande fontaine de marbre, le miroir d'eau, qu'il a fait juste avant sa mort, assez dramatique, par un accident de voiture. Il est l'auteur donc de ce miroir d'eau qui est du côté de là où il y avait l'exposition Braque, où là il y avait l'exposition Hopper. Souvent des files d'attente autour de cette fontaine. Il n'y a même pas de cartel d'ailleurs, je crois, qui indique le nom de l'artiste sur cette fontaine.
Sur cette fontaine, je ne crois pas. En tout cas, à Bordeaux aussi, c'est un
alors, été. À Bordeaux, oui, y a, parce que bon, là, la mairie de Bordeaux, c'est que, enfin, on peut-être plus facilement hommage à l'artiste, mais.
Un hommage à l'artiste, un petit peu, pas vraiment, parce que vous l'étiez à la sculpture, je ne dirais pas ça.
Non, mais il y a beaucoup de choses d'ailleurs de l'Arche hein, qui ont disparu, et signalons qu'à Bordeaux, il y a le monument aux Girondins qui a longtemps été dans des réserves. Ce que vous dites d'ailleurs sur Bordeaux, c'est vrai que j'ai toujours considéré que c'était une ville qui était sous. Un petit peu à la traîne au niveau de la culture, c'est pas digne d'une ville comme Bordeaux d'avoir un si petit musée et de l'avoir fermé si longtemps.
Clairement, Bordeaux n'est pas la deuxième ville culturelle comme on a pu le dire.
Je peux dire juste, vous parlez des musées, je voudrais juste citer un exemple, parce que lors de nos voyages de classe avec l'école du Louvre il y a quelques temps, avec mes étudiants, on était allé au musée des Augustins de Toulouse, où il n'y a que deux conservateurs pour toutes les collections, ce qui est assez sidérant, puisqu'au final, il y a des collections très riches, à la fois pour le Moyen-Âge roman, pour le 19e siècle aussi. Il y a
à Toulouse,
au musée d'Augustins, deux conservateurs pour tout le musée, donc c'est difficile d'organiser des expos, d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à le faire, et je voudrais signaler le cas un peu catastrophique du pré-musée Jean-Jacques Rousseau à Montbard, musée qui n'a jamais ouvert, alors que on l'avait visité il y a 2 ans, tout est prêt. Montbard, c'est un petit peu au-dessus de Dijon, et ce musée a subi les conséquences d'un changement de maire qui était passé d'un autre dans l'autre camp entre guillemets, et le fait est qu'il restait à peu près un million de budget pour finaliser le musée, les murs, les vitrines, l'installation des œuvres, et qu'au final comme le maire n'avait pas le même projet, bien ce musée Jean-Jacques Rousseau n'a jamais vu le jour, alors qu'on a réhabilité toute une maison. Le conservateur qui avait porté ce projet est parti maintenant, donc c'est là un des endroits où peut-être que vous pouvez enquêter, parce que j'admire beaucoup.
Oui, je ne connaissais pas cette histoire et je trouve ça assez effarant. Alors, si on parle de musée, là, c'est pas un musée fermé, c'est un musée qui n'a pas ouvert, en fait. Mais les collections venaient d'où ?
Alors, les collections, c'était des collections qui avaient été acquises petit à petit par la ville. Bon, c'est un musée sur plutôt l'histoire de Jean-Jacques Rousseau. C'est un musée qui... en soi n'avait pas des collections exceptionnelles, il y avait beaucoup de livres, des portraits qui sont pas de grande valeur, donc c'est pas un musée d'art, c'est un musée culturel, mais Rousseau aurait eu un musée de plus peut-être, mais disons que le projet était allé très 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 loin, et au final c'est un projet avorté.
Alors on peut parler d'ailleurs donc un musée qui n'est pas ouvert, et aussi les musées fermés, ça c'est une chose dont j'aimerais parler beaucoup plus à la Tribune de l'Art, qui demande des enquêtes assez complexe, parce que si les musées sont fermés, on peut difficilement les visiter. Parce que si les musées sont fermés, parfois il y a quand même un conservateur, qu'il est toujours délicat de parler de cela sans mettre en danger le conservateur, parce que la mairie peut toujours penser que le conservateur nous a parlé, ce qui d'ailleurs n'est souvent pas le cas. Alors je voudrais parler de deux musées, alors on parlait de l'étranger également, on parlait de la réouverture, j'ai oublié de parler de la réouverture de la Tête Galerie, excusez-moi, c'était un petit peu décousu, mais la Tête Galerie a rouvert, alors elle n'est pas du tout fermée bien sûr, elle a rouvert ces salles avec un très bel accrochage. Ça c'est également un article qui va venir bientôt, mais je voudrais parler aussi du musée de Courtrai. On m'a averti hier que le musée de Courtrai donc en Belgique allait fermer, ce qui paraît complètement incroyable. Courtrai paraît-il est une belle collection, je ne le connais pas personnellement, mais donc on voit bien que actuellement les musées sont souvent menacés, que ce soit en France ou en Belgique. Donc le musée de Courtrai, vous connaissez le musée de Courtrai ?
Non.
C'est un musée qui paraît-il fermé. Il faudrait que nous enquêtions là-dessus, et si des amis belges nous écoutent, je sais qu'ils lisent beaucoup la Tribune de l'Art, éventuellement s'ils ont des informations, nous sommes intéressés. Je suis également pour ma part assez inquiet pour le musée de Chartres. Beaucoup de bruits, qui ne sont plus des bruits d'ailleurs, courent sur le musée de Chartres. Alors j'avais appelé il y a quelques mois le maire, qui m'avait répondu pas du tout, le musée ne va pas fermer. Il est effectivement le bâtiment dans lequel il est abrité, qui est l'évêché, dépend je crois du conseil général. Il avait dit que le conseil général devait le reprendre, donc le musée devait déménager. Il nous a expliqué très sérieusement que ce musée allait déménager quasiment en un an dans des maisons qui se trouvent sur le parvis de la cathédrale. C'est totalement impossible, évidemment, puisque déménager un musée, ça ne se fait pas comme cela. Et depuis, donc le musée, en tout cas, il était hors de question que le musée ferme. Or, on a lu récemment dans la presse régionale que le musée allait abriter maintenant ce qu'il appelle la Cosmetic Valley, ou Cosmetic City, ou je ne sais plus exactement, donc c'est quelque chose lié au parfum, la cosmétique, et que le musée allait cohabiter, le musée des Beaux-Arts allait cohabiter avec cela, dans ce petit bâtiment, c'est à peu près, je pense, n'importe quoi. Alors nous voulons aller sur place, le maire nous a invités à venir. J'ai demandé déjà à venir, j'ai pas de nouvelles, donc c'est un article sur lequel, même si je ne suis pas reçu par la mairie, en tout cas nous en parlerons bientôt sur la Tribune de l'Art, nous en parlons déjà ici dans la Semaine de l'Art. Une chose avant de passer à la suite de notre émission, toujours sur votre livre et sur les sculpteurs néo-baroques. Je reviens, vous disiez tout à l'heure qu'une œuvre avait été abîmée. Enfin, il y a des œuvres. Oui. Il y a beaucoup d'œuvres, on s'aperçoit qu'il y a même beaucoup d'œuvres détruites. Alors on sait que c'était dans l'exposition, la très belle exposition sur la sculpture du 19e siècle qui a eu lieu il y a 25 ans, quelque chose comme ça, au Grand Palais, où je me rappelle très bien cette introduction. Alors on ne jette plus. Où il y a eu énormément dans les musées qui sont normalement là pour conserver. Il y a eu beaucoup d'œuvres abîmées ou détruites. Et c'est vrai que dans votre livre, on voit beaucoup de destruction. Alors heureusement, beaucoup d'œuvres sont en plâtre d'abord, puis faites dans d'autres matériaux, éventuellement avec des réductions. Donc on connaît souvent, il y a souvent plusieurs modèles, plusieurs exemplaires. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de destruction.
Oui, c'est vrai. Vous citiez cette introduction devenue célèbre, surtout pour les gens qui ont travaillé sur la sculpture à la fin du 19e siècle. C'était lors de l'exposition du Grand Palais de 1986. Organisé par l'équipe du musée d'Orsay, Anne Pinjot, Laurent de Majorie, etc. Jacques Decazeau avait fait son introduction au colloque de l'école du Louvre en disant « alors on ne jette plus ». Et j'ai pour moi, ma part, retrouvé une sculpture de Léopold Maurice, qui est l'auteur avec son frère d'un monument important à Paris, le monument de la place de la République, bon, qui est un peu massif, qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre.
Une place de la République martyrisée par la ville de Paris récemment.
Oui, où il y a, bon, alors la sculpture, du coup, arrive à être quand même visible. Mais Maurice a fait quelques œuvres un petit peu plus gracieuses et élégantes, et un Diane et Andibion notamment, une sorte de bel enlèvement à la Bernin. Je l'ai retrouvé en morceaux parce que c'était une œuvre en plâtre dans des poubelles dans la ville de Bourbon-Lancy, qui m'a d'ailleurs chaleureusement accueilli, puisque ça fait partie, il y a un très très beau musée à Bourbon-Lancy qui est conservé dans une vieille église où ils ont un superbe puits de Chavannes, mais là aussi tout ça c'est fermé. Alors quand on fait des recherches, on a parfois la chance d'avoir des portes ouvertes, mais bon, j'ai retrouvé la sculpture dans des poubelles. Heureusement, comme vous dites, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à avoir une illustration par artiste, hein. Il a fallu se battre aussi pour vis-à-vis de mon éditeur, mais qui a bien finalement compris.
Pour rendre hommage à l'éditeur, parce que c'est pas facile, oui, forcément d'éditer ce genre de livre, c'est le CTHS.
Voilà, exactement, c'est le CTHS. Donc on a bagarré chacun avec nos points de vue, mais au final on a réussi à avoir une photo par artiste, parce que je pense qu'il fallait illustrer chacun d'eux. L'avantage du 19e siècle, c'est que il y a eu la photographie, première source de conservation, entre guillemets, au moins des témoignages des œuvres. Et comme vous dites, plusieurs matériaux, donc parfois des plâtres qui sont conservés ou des réductions. La période qui nous concerne, donc entre 1870 et 1914, est l'apogée de la petite sculpture. Ce qui fait que lorsque j'avais plus le grand format, j'ai pu parfois à Drouot ou dans des galeries trouver des petits modèles. Mais alors, il y a une œuvre notamment que j'ai choisie en illustration, qui est l'œuvre d'Ernest Damé, qui est un très bel Fujitama, un très bel enlèvement là aussi. Je pense, c'est une des belles œuvres de la fin du 19e siècle. Le plâtre est conservé au musée au dépôt d'Ivry, qui là aussi, je crois qu'on peut peut-être en dire un mot, parce que le dépôt d'Ivry est un peu menacé. On ne sait pas trop ce qu'il en est. C'est la réserve des sculptures de la ville.
Alors, le dépôt d'Ivry, en fait, réserve des sculptures et également de peintures de la ville de Paris. On parle beaucoup pour les inondations, la crainte d'une inondation centenaire du Louvre et des musées autour de les plus connus, mais le dépôt d'Ivry est inondable, il faut le savoir. Or, il conserve énormément de sculptures en plâtre très fragiles. On peut imaginer les dégâts si jamais l'eau montait. Il sera impossible d'évacuer ces sculptures. C'est un des nombreux problèmes que pose le patrimoine de la ville de Paris, mais c'est vrai que moi j'avais pu visiter il y a quelques années ce dépôt d'Ivry. Les conditions ne sont pas bonnes de conservation et clairement, il faudrait faire quelque chose. En tout cas, il faudrait que la ville de Paris puisse faire un vrai dépôt, une vraie réserve pour ces musées. Ça, on n'en parle pas vraiment. Vous parlez également de cette œuvre que vous avez retrouvée dans une poubelle. Vous avez pu la sauver, donc ?
Je sais pas où elle en est, elle est toujours dans les poubelles. Bon, c'est difficile après moi j'ai sauvé aucune œuvre au final, j'ai sauvé photographiquement, je pense qu'elles sont toujours dans cet état, surtout que c'est une personne de la municipalité qui était chargée d'affaires culturelles à Bourbon-Lancy. Il a bien voulu qu'on sorte quelques débris de la poubelle, donc on a pu sortir les deux têtes des personnages pour que je les photographie. Mais je pourrais vous envoyer des photos si
bien
vous
voulez. Oui, on mettra des photos sur la tribune de l'art. Et le musée est donc fermé.
Oui, je crois que le musée de Bourbon-Lancy est fermé.
Il faut absolument faire quelque chose.
Bon, ça fait partie des. Alors pour Ivry, ce qui est aussi Ivry, en effet, c'est C'est plus proche de nous, mais il y a un grand danger parce que c'est totalement inondable, comme vous l'avez dit. Et puis il y a des œuvres en pierre qui sont en extérieur depuis assez longtemps, donc qui sont quand même qui sont à prix des intempéries. Et surtout, la plupart des œuvres qui sont dedans sont des plâtres originaux. La plupart des bronzes tirés de ces plâtres ont été fondus voilà sous l'occupation, sous le régime de Vichy, ce qui fait que là on perdrait irrémédiablement des œuvres importantes quand même du patrimoine sculpté du 19e
siècle. C'est un article que je pense une enquête qu'il faudra qu'on fasse de manière détaillée. Pour terminer cette rubrique musée, la ville de Paris également qui a annoncé récemment il y a quelques jours une fréquentation des musées record. Or, si on regarde de près, les syndicats ont communiqué pour dire que cette fréquentation des musées records, en fait, c'est la même que l'année dernière et que celle d'avant, et surtout que c'est une fréquentation record dans des musées en grande partie fermés. Par exemple, le musée Carnavalet, j'avais écrit un article, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a énormément de salles sont fermées, faute de gardiennage, faute de budget. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne dans votre activité de conférencier ?
Oui, assez régulièrement, c'est assez difficile d'exercer l'activité de visite en groupe, même d'ailleurs pour le musée du Louvre. Quand j'étais enseignant à l'école du Louvre, il faut savoir que les négociations sont difficiles entre le Louvre et l'école du Louvre pour que l'école ait des horaires pour ses étudiants. Dans les musées de la ville de Paris, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de scolaires aussi qui veulent y aller. Actuellement, c'est quasiment... Pour Carnavalet, faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Faut essayer de spécifier le type de salle qu'on veut voir, si c'est la Révolution, par exemple, ou si ce sont les salles romantiques, parce qu'on essaiera de vous les ouvrir le jour où vous arrivez, mais rien n'est gagné à Carnavalet. C'est très très dur aujourd'hui de faire des visites à Carnavalet, puisque en effet une bonne partie des salles sont fermées, alors que c'est un des plus beaux musées parisiens, à mon sens, pour la qualité de ses collections.
Alors, nous passons maintenant à la rubrique, une nouvelle rubrique, une suite, patrimoine, j'allais dire, nous parlons du patrimoine depuis le départ. Mais parmi les affaires dont nous n'avons pas parlé, nous aurions aimé le faire, mais nous n'avons pas pu aller sur place et effectivement, l'information. Nous recevons tous les jours des informations de ce genre. Celle-ci est particulièrement grave, en revanche, puisqu'il s'agit de Bastia. Plusieurs maisons anciennes du Vieux-Port, dans le quartier du Puntetou, notamment la maison Montessoro, qui est une maison du XVIe siècle, absolument, vraiment très très belle. Hein, nous mettrons les photos sur le site, avec des sculptures, avec une très belle maison. Ces maisons vont être détruites par la mairie qui veut faire une opération immobilière. Le genre de choses qu'on ne voyait que dans les années 60-70, mais qui ont tendance à revenir. Je pense par exemple à Orléans. Là, le maire, pour le moment, s'est calmé, puisque là, le ministère de la Culture a joué son rôle en inscrivant 2 ou 3 maisons de la rue des Carmes. Hein, j'ai publié beaucoup d'articles sur cette rue. En protégeant ces maisons, normalement, cela protège le reste de la rue, puisqu'il s'agissait d'aligner l'ensemble de la rue pour des raisons pas très claires. Pour le moment, ce quartier est protégé, mais jusqu'à quand, puisque Serge Gouard, le maire UMP d'Orléans, va très probablement être réélu, donc probablement qu'il reviendra à la charge après son élection. On voit à Paris, toujours, la politique de la ville de Paris, où l'îlot de la Samaritaine est en train d'être détruit, avec des maisons du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Donc on recommence les erreurs gravissimes qu'on avait faites dans les années 60-70, détruire des pâtés entiers de maisons, des fois des quartiers entiers, et à Bastia, c'est le cas. C'est le cas si rien n'est fait. Et manifestement, le ministère des Cultures, pour l'instant, s'avère impuissant, alors qu'il suffirait de protéger cette maison Montessoro, de l'inscrire comme le souhaitent les associations, et cela fonctionnerait. Mais apparemment, la commission qui était en charge de ça ne l'a pas fait. Il y a eu, alors, pour des raisons que je ne connais pas exactement, mais des raisons assez bizarres, celle-ci n'a pas été protégée. Donc certains pensent que ce quartier, ces 5-6 maisons, que tout cela va être détruit. J'espère que non, j'espère qu'il n'est pas trop tard. En tout cas, voilà ce qui se passe actuellement. Il faut quand même le savoir, on pense toujours que le patrimoine est protégé, c'est largement faux. Prenons un autre exemple, qui là, c'est bien terminé, mais il aurait pu très mal se passer. C'est dans les années 60-70, rappelons-nous du maire de Lyon, qui voulait détruire le vieux quartier Saint-Jean, qui était, pas intéressant, qui était trop vétuste pour être restauré, etc. Il voulait le détruire. Or, ce quartier Saint-Jean est aujourd'hui classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même ahurissant de penser à cela. Beaucoup du patrimoine qu'on veut détruire, quand on arrive à le sauver, finalement, il devient quelque chose de très important. pensons au Boulingrin, la halle des Boulingrins à Reims, qui est une absolument quelque chose de magnifique de Fraissinet, l'ingénieur Fraissinet, qui, je crois que là, le ministère de la Culture avait fait effectivement encore une fois son rôle, joué son rôle en protégeant la halle de Boulingrin au dernier moment, alors que les bulldozers étaient déjà en route. Pour qui va à Reims maintenant, les Boulingrins, c'est une chose très importante. C'est un bâtiment absolument magnifique. Et il a été heureusement sauvé. Alors, en revanche, des fois, il y a des catastrophes que le ministère de la Culture ne fait rien. Par exemple, à Fontainebleau, nous avons parlé de la halle de Fontainebleau, un très élégant monument en béton, mal aimé, bien sûr, hein, parce qu'on n'était pas regardé. Or, c'est un très beau monument que le maire a voulu détruire, que le ministère de la Culture a posé, le ministère de la Culture a posé une instance de classement, et il suffisait au ministère de la Culture d'attendre un an. C'est-à-dire que ça nous aurait mené aux élections municipales et ce bâtiment aurait été sauvé. Or, pour des raisons pas très compréhensibles, le ministère de la Culture a cédé face au maire. Au bout de 2 mois ou 3 mois, ils ont donné l'autorisation de détruire. Et le maire, il faut le savoir, UMP n'a pas été renouvelé par l'UMP. C'est-à-dire que le maire ne va pas être réélu. Et clairement, les opposants au maire voulaient sauver cette halle. C'est-à-dire que cette halle a été détruite, il faut le dire, hein, de la responsabilité pleine et entière du ministère de la Culture qui n'a pas fait son devoir. Donc, croire qu'en 2014, le patrimoine qu'on célèbre un peu partout, pour lequel on célèbre les journées du patrimoine, est protégé, qu'il n'y a pas de catastrophe, c'est faux. Hein. Je peux en témoigner en recevant, encore une fois, tous les jours, je reçois des signalements absolument dramatiques. J'ai parlé donc des bâtiments de la Samaritaine. Un autre point. Alors là, on va parler aussi d'un bâtiment en péril. Qui s'appelle les Moulineaux. En fait, les Moulineaux est une chapelle qui se trouve sur la commune de Poigny-la-Forêt, une chapelle de Grand Montin, de l'ordre de Grandmont, édifiée à la fin du XIIe siècle, qui se trouve dans un bois et en très mauvais état. Le toit est percé. Enfin, c'est vraiment ça menace vraiment en ruine. Or, là, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a une mairie, la mairie de Poigny-la-Forêt. Je crois qu'il faut citer son nom. La maire s'appelle Madame Marie Fuchs. Et une association qui veulent sauver ce bâtiment. Donc, sur la tribune de l'art, on dénonce souvent les élus hein, de tous bords, hein, à gauche, à droite, qui sont souvent des personnes qui ne s'intéressent pas au patrimoine. Il y en a également à gauche et à droite qui s'intéressent au patrimoine. Ce n'est pas une question de politique. En tout cas, Marie Fuchs, dont je ne connais pas les affiliations politiques et qui m'en diffère assez, veut sauver l'édifice en le rachetant au propriétaire. Le problème, c'est que le propriétaire ne veut pas. Alors que le propriétaire n'habite pas là, qu'il pourrait très bien céder cette portion de forêt pour avoir la chance de sauver cette petite chapelle. Voilà, donc nous essaierons, là c'est pareil, si nous voulons parler de cela, il serait mieux que nous allions sur place. Nous aimons bien aller sur place pour pouvoir parler de choses que nous avons vues. Parfois nous écrivons des articles à partir des renseignements et de photos très détaillées, une enquête que nous menons par téléphone, mais je n'aime pas beaucoup faire ça, hein, parce que le patrimoine c'est d'abord quelque chose que l'on voit, quelque chose qu'on visite. Mais cette chapelle des Moulineaux mérite en tout cas d'être sauvée. Il y a une association dont nous mettrons les coordonnées sur le site. Il y a également un reportage sur France TV, sur France, qui est visible sur Internet. Nous mettrons le lien. Espérons que cette chapelle pourrait être sauvée. Sur ce patrimoine qui est en péril, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça vous touche?
Oui, ça, bien sûr. Moi, j'étais plus touché par le patrimoine sculpté que le patrimoine architectural, mais au final, les dégradations et les pertes sont souvent aussi importantes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution par rapport au vandalisme, entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai jeté un œil avant de, comme vous m'avez dit que vous parlerez du patrimoine, j'ai jeté un œil au livre de Louis Réau, qui est devenu une sorte de best-seller sur l'histoire du vandalisme, fait une sorte de panorama de tous les bâtiments détruits depuis la Révolution jusqu'à la Ve République, et je pense qu'on pourrait le continuer encore aujourd'hui.
Il y a eu une
mise à jour. Le patrimoine, au final, entre ce qui existe et qui est protégé, bon, aujourd'hui, il y a des choses qui ne bougeront plus, mais le petit patrimoine, et c'est vrai que j'ai regardé les maisons de la Samaritaine, parce que je passe régulièrement en vélo, et grâce à vous, j'ai jeté un œil sur ces échafaudages. On les voit toujours, elles sont en train d'être détruites, là. On peut aller... C'est d'ailleurs un spectacle assez sidérant.
C'est assez affligeant, au cœur de Paris, à quelques centaines de mètres du Louvre, dans un secteur protégé. C'est la démission complète du ministère de la Culture. C'est la démission complète aussi. Il y a eu un problème de justice, c'est-à-dire que les associations ont attaqué. et pour des raisons complètement scandaleuses, où j'en parle sur le site, il n'y a pas eu de jugement. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'un courrier recommandé est arrivé avec une erreur dans le recommandé, ce qui est complètement grotesque de la part des associations. Et donc finalement, il n'y a pas eu de jugement. Et c'est, je crois, devant le Conseil d'État, mais une fois que le Conseil d'État aura tranché, les maisons seront démolies, comme c'est souvent le cas.
Alors après, il y a de toute façon, encore une fois, c'est une histoire. Il y avait eu le clocher de Sarrabezolles aussi, qui avait été détruit en région parisienne. Je voudrais juste dire que, peut-être pour équilibrer un petit peu, pour être allé à Chicago il y a 2 ans, il y a une église de Frank Lloyd Wright qui est dans un état, non pas lamentable, mais un peu inquiétant. C'est l'église unitarienne d'Oak Park, qui est à côté de la maison de l'architecte, à côté de cette série des superbes maisons prairies. L'église fait partie du parcours, mais à l'intérieur, on voit qu'il y a des infiltrations d'eau. Donc le patrimoine n'est pas forcément menacé qu'en France. Il a été depuis très longtemps. Il y a d'ailleurs... l'un de mes sculpteurs a fait partie de ce patrimoine disparu par le biais d'un palais célèbre, le Palais Rose, qui était avenue Foch, qui était une sorte de réplique du Grand Trianon. Une sorte de folie réalisée à la fin de la Belle Époque, juste avant la guerre. Le palais a été complètement rasé pour faire un immeuble dans les années 70, et il n'en reste plus rien. Même, c'est ça qui est malheureux, je ne sais pas où c'est parti, même les grands reliefs de style Louis XIV qui avaient été réalisés donc par Paul Aubé, l'un des, je crois que c'est le premier sculpteur du dictionnaire par ordre alphabétique, ces reliefs, j'ai jamais pu les retrouver.
C'est à Loire.
Ah pardon, c'est à Loire, oui, il doit être un peu après. Aubé...
C'est même André Allard.
André Allard, le Marseillais.
Voilà. Il y a beaucoup d'avant Aubé.
Et Aubé a eu une carrière assez brillante d'ailleurs à son époque, mais voilà, ça fait partie des choses qui ont disparu. On pourrait remonter jusque Chambord menacé et cet écrit de Victor Hugo sur les démolisseurs, la célèbre bande noire. Donc je ne suis pas sûr que les choses aient vraiment changé au final.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs, nous essayons, alors c'est pareil, nous parlons beaucoup du patrimoine français. Nous n'arrivons pas à parler du dixième de ce dont nous devrions parler. Nous sommes également beaucoup sollicités en Belgique, où il y a beaucoup de destructions, en Italie. L'Italie, elle connaît également des graves problèmes patrimoniaux. On essaye, sur la Tribune de l'Art, de parler de tous ces sujets. Et pourquoi pas des États-Unis? Évidemment, c'est infini, en fait. C'est infini. C'est-à-dire que le patrimoine disparaît vraiment à une vitesse assez inquiétante. Et on ne parle pas, évidemment, des pays en guerre. Et des destructions, par exemple, ou bien même des pays comme la Chine, où la destruction, je crois, je ne connais pas Pékin, mais il paraît que le vieux Pékin est quasiment complètement disparu sous les coups des bulldozers. Donc la lutte pour la défense du patrimoine est vraiment une lutte très, très nécessaire et qui, malheureusement, continue de plus belle. D'ailleurs, on est là pour... Enfin, l'État est là aussi pour protéger ce patrimoine. Il y a une loi sur le patrimoine qui doit bientôt être présentée devant le Parlement. Enfin, je n'y crois pas trop parce que vu le nombre de lois que doit voter le Parlement, dans les derniers articles qui sont parus dans la presse, on n'a pas vu du tout trace de cette loi dans laquelle il y a de bonnes choses, de bonnes intentions du ministère de la Culture. Il y en a d'autres beaucoup moins bonnes. Nous devrions en parler bientôt sur la Tribune de l'Art. Mais ce qui m'inquiète, par exemple, c'est, et là, le gouvernement actuel suit exactement ce que faisait le président du gouvernement, c'est quand on nous parle du choc de simplification, on vient d'en parler, du choc de simplification, on nous dit de rendre encore plus difficile, on veut rendre encore plus difficile les recours abusifs pour permettre de construire plus. J'aimerais savoir ce que c'est qu'un recours abusif. Si un recours est abusif, c'est-à-dire, en gros, si quelqu'un veut faire un recours pour gagner de l'argent, pour faire du chantage, il est très facile de le condamner et de montrer qu'on pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'il souhaite, on ne puisse pas payer quelqu'un. Enfin, on pourrait condamner ces personnes-là. Le problème d'un recours abusif, ce sont les associations. Je ne connais pas d'association de protection du patrimoine qui fasse des recours abusifs, c'est-à-dire qui demande à être payé en échange du retrait du recours. C'est absolument faux. Ce qu'on veut, simplement, c'est museler ces associations qui défendent le patrimoine et rendre plus facile les constructions, ça rend plus facile le vandalisme. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument suivre de près et qui est très inquiétant. Avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder? Et puis éventuellement, peut-être, nous donner 2-3 noms d'artistes que vous aimez bien, qu'on n'a pas encore cités, et 2-3 œuvres qu'on pourrait voir peut-être à Paris. Est-ce que, dites-nous quelques œuvres intéressantes qui ne sont pas regardées, qui ne sont pas vues sur le. Et qui sont dans les rues de Paris?
Oui.
Le sculpteur néo-baroque, bien sûr.
Je parlais du musée des Augustins, c'est une des étapes. Importante pour qui aime la sculpture française du 19e siècle. Il y a eu toute une école des Toulousains qui s'est imposée dans la
période qui va des années 1860 à 1900. Et donc je citerai deux Toulousains pour finir. Falguière, qui est donc dont on a, j'ai juste dit un mot tout à l'heure parce qu'il a une rue et un métro quand même à Paris. Il y avait même une cité Falguière où il y avait énormément d'artistes qui sont venus s'installer dans cet âge d'or de Montparnasse. De Falguière, au final, il y a pas énormément d'œuvres qui sont visibles, sauf si on va à Toulouse. Il est l'auteur d'une œuvre qui n'est pas vraiment baroque, c'est le Balzac de l'avenue de Friedland. Mais je voudrais surtout citer l'autre grand Toulousain de cette époque, c'est Antonin Mercier. Et il y a une œuvre que tout le monde a déjà vue, c'est le grand relief en cuivre qui est au-dessus du passage des voitures du Louvre, élément qui est refait sous Napoléon III, et la Troisième République ne voulant pas évidemment conserver l'effigie napoléonienne, on avait détruit l'œuvre et le vide avait été confié à Antonin Mercier, jeune artiste qui réalisera donc cet Apollon entouré des muses. C'est une œuvre en cuivre, donc d'où son coloris vert. Tout le monde l'a déjà vu parce que c'est en plein milieu de la façade du Louvre qui donne sur la Seine, et Mercier fait partie de ces artistes qui ont une carrière assez fulgurante, mais qui sont presque tombé dans un total oubli jusqu'à aujourd'hui. Donc avec les chevaux de Récipon et puis pourquoi pas le pont Alexandre III qui est lui décoré par plusieurs sculpteurs, ça fait partie je pense des icônes de.
Je crois qu'il y a eu une sculpture ou du moins un relief qui a été volé sur le pont Alexandre III récemment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, je ne suis pas au courant.
Alors je mettrai ça aussi sur la tribune de l'art, mais je crois qu'il y a eu quelque chose, une petite sculpture qui a été volée sur le pont Alexandre III. J'en suis même certain. Je crois que ce sont peut-être des emblèmes de la ville de Paris.
Ah, c'est possible, ouais, parce qu'il y avait les RF ou les emblèmes de Paris.
Ouais, les emblèmes de Paris, peut-être, à vérifier. Écoutez, Guillaume Peigny, en tout cas, merci pour votre participation à cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 18h, donc le jeudi 16 janvier à 18h, pour une nouvelle émission de la Semaine de l'Art et un ou une nouvelle invitée. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.